Je me mis à parler du comte de Paris, à demander s'il n'était pas ami de Swann, car je craignais que la conversation se détournât de celui-ci. « Oui, en effet, répondit M. Norpois, en tournant vers moi et en fixant sur ma modeste personne le regard bleu, où flottaient, comme dans leur élément vital, ses grandes facultés de travail et son esprit d'assimilation. Et mon Dieu, ajouta-t-il en s'adressant de nouveau à mon père, je ne crois pas franchir les bornes du respect dont je fais profession pour le prince, sans cependant entretenir avec lui des relations personnelles que rendrait difficile ma situation, si peu officielle qu'elle soit, en vous citant ce fait assez piquant que, pas plus tard qu'il y a 4 ans, dans une petite gare de chemin de fer d'un des pays de l'Europe centrale, le prince eut l'occasion d'apercevoir Madame Swann. Certes, aucun de ses familiers ne s'est permis de demander à Monseigneur comment il l'avait trouvée. Cela n'eût pas été séant. Mais quand par hasard la conversation a mené son nom à de certains signes, imperceptibles si l'on veut, mais qui ne trompent pas, le prince semblait donner assez volontiers à entendre que son impression était en somme loin d'avoir été défavorable. Mais il n'y aurait pas eu possibilité de la présenter au comte de Paris ? Demanda mon père. Eh bien, on ne sait pas. Avec les princes, on ne sait jamais, répondit M. de Norpois. Les plus glorieux, ceux qui savent le plus se faire rendre ce qu'on leur doit, sont aussi quelquefois ceux qui s'embarrassent le moins des décrets de l'opinion publique, même les plus justifiés, pour peu qu'il s'agisse de récompenser certains attachements. Or, il est certain que le comte de Paris a toujours agréé avec beaucoup de bienveillance le dévouement de Swann, qui est d'ailleurs un garçon d'esprit, s'il en fut. Et votre impression à vous, quelle a-t-elle été, monsieur l'ambassadeur ? Demanda ma mère par politesse et par curiosité. Avec une énergie de vieux connaisseur qui tranchait sur la modération habituelle de ses propos, « Tout à fait excellente, » répondit M. de Norpois. Et sachant que l'aveu d'une forte sensation produite par une femme rentre, à condition qu'on le fasse avec enjouement, dans une certaine forme particulièrement appréciée de l'esprit de conversation, il éclata d'un petit rire qui se prolongea pendant quelques instants, humectant les yeux bleus du vieux diplomate et faisant vibrer les ailes de son nez nervurées de fibrilles rouges. Elle est tout à fait charmante. Est-ce qu'un écrivain du nom de Bergotte était à ce dîner, monsieur ? Demandai-je timidement pour tâcher de retenir la conversation sur le sujet des Swann. Oui, Bergotte était là, répondit M. de Norpois, inclinant la tête de mon côté avec courtoisie, comme si, dans son désir d'être aimable avec mon père, il attachait à tout ce qui tenait à lui une véritable importance, et même aux questions d'un garçon de mon âge qui n'était pas habitué à se voir montrer tant de politesse par des personnes du sien. « Est-ce que vous le connaissez ? » ajouta-t-il en fixant sur moi ce regard clair dont Bismarck admirait la pénétration. « Mon fils ne le connaît pas, mais l'admire beaucoup, » dit ma mère. « Mon Dieu, » dit M. de Norpois, qui m'inspira sur ma propre intelligence des doutes plus graves que ceux qui me déchiraient d'habitude, quand je vis que ce que je mettais mille et mille fois au-dessus de moi-même, ce que je trouvais de plus élevé au monde, était pour lui tout en bas de l'échelle de ses admirations. Je ne partage pas cette manière de voir. Bergotte est ce que j'appelle un joueur de flûte. Il faut reconnaître du reste qu'il en joue agréablement, quoique avec bien du maniérisme de la fêterie. Mais enfin ce n'est que cela, et cela n'est pas grand-chose. Jamais on ne trouve dans ces ouvrages sans muscles ce qu'on pourrait nommer la charpente. Pas d'action, ou si peu, mais surtout pas de portée. Ces livres pêchent par la base, ou plutôt il n'y a pas de base du tout. Dans un temps comme le nôtre, où la complexité croissante de la vie laisse à peine le temps de lire, où la carte de l'Europe a subi des remaniements profonds et est à la veille d'en subir de plus grands encore peut-être, où tant de problèmes menaçants et nouveaux se posent partout, vous m'accorderez qu'on a le droit de demander à un écrivain d'être autre chose qu'un bel esprit, qui nous fait oublier dans des discussions oiseuses et byzantines sur des mérites de pure forme, que nous pouvons être envahis d'un instant à l'autre par un double flot de barbares, ceux du dehors et ceux du dedans. Je sais que c'est blasphémé contre la sacro-sainte école de ce que ces messieurs appellent l'art pour l'art, mais à notre époque, il y a des tâches plus urgentes que d'agencer des mots d'une façon harmonieuse. Celle de Bergotte est parfois assez séduisante, je n'en disconviens pas, mais au total, tout cela est bien mièvre, bien mince et bien peu viril. Je comprends mieux maintenant, en me reportant à votre admiration tout à fait exagérée pour Bergotte, les quelques lignes que vous m'avez montrées tout à l'heure, et sur lesquelles j'aurais mauvaise grâce à ne pas passer l'éponge, puisque vous avez dit vous-même, en toute simplicité, que ce n'était qu'un griffonnage d'enfant. Je l'avais dit en effet, mais je n'en pensais pas un mot. À tout péché miséricorde, et surtout au péché de jeunesse. Après tout, d'autres que vous en ont de pareils sur la conscience, et vous n'êtes pas le seul qui se soit cru poète à son heure. Mais on voit dans ce que vous m'avez montré la mauvaise influence de Bergotte. Évidemment, je ne vous étonnerai pas en vous disant qu'il n'y avait là aucune de ses qualités, puisqu'il est passé maître dans l'art tout superficiel du reste, d'un certain style dont, à votre âge, vous ne pouvez posséder même le rudiment. Mais c'est déjà le même défaut, ce contresens, d'aligner des mots bien sonores en ne se souciant qu'ensuite du fond. C'est mettre la charrue avant les bœufs, même dans les livres de Bergotte. Toutes ces chinoiseries de forme, toutes ces subtilités de mandarin déliquescent me semblent bien vaines. Pour quelques feux d'artifice agréablement tirés par un écrivain, on crie de suite au chef-d'œuvre. Les chefs-d'œuvre ne sont pas si fréquents que cela. Bergotte n'a pas à son actif, dans son bagage, si je puis dire, un roman d'une envolée un peu haute, un de ses livres qu'on place dans le bon coin de sa bibliothèque. Je n'en vois pas un seul dans son œuvre. Il n'empêche que chez lui, l'œuvre est infiniment supérieure à l'auteur. Ah, voilà quelqu'un qui donne raison à l'homme d'esprit qui prétendait qu'on ne doit connaître les écrivains que par leurs livres. Impossible de voir un individu qui réponde moins au sien, plus prétentieux, plus solennel, moins homme de bonne compagnie, vulgaire par moments, parlant à d'autres comme un livre, et même pas comme un livre de lui, mais comme un livre ennuyeux, ceux qu'au moins ne sont pas les siens. Tel est ce Bergotte. C'est un esprit des plus confus, alambiqué, ce que nos pères appelaient un diseur de Phébus, et qui rend encore plus déplaisant, par sa façon de les énoncer, les choses qu'il dit. Je ne sais si c'est Loménie ou Sainte-Beuve qui raconte que Vigny rebutait par le même travers, mais Bergotte n'a jamais écrit Saint-Mars ni le Cachet rouge, où certaines pages sont de véritables morceaux d'anthologie. Atterré par ce que M. de Norpois venait de me dire du fragment que je lui avais soumis, songeant d'autre part aux difficultés que j'éprouvais quand je voulais écrire un essai ou seulement me livrer à des réflexions sérieuses, je sentis une fois de plus ma nullité intellectuelle et que je n'étais pas né pour la littérature. Sans doute autrefois à Combray, certaines impressions fort humbles ou une lecture de Bergotte m'avaient mis dans un état de rêverie qui m'avait paru avoir une grande valeur. Mais cet état, mon poème en prose le reflétait. Nul doute que M. de Norpois n'en eût saisi et percé à jour tout de suite ce que j'y trouvais de beau seulement par un mirage entièrement trompeur, puisque l'ambassadeur n'en était pas dupe. Il venait de m'apprendre au contraire quelle place infime était la mienne quand j'étais jugé du dehors, objectivement par le connaisseur le mieux disposé et le plus intelligent. Je me sentais consterné, réduit, et mon esprit comme un fluide qui n'a de dimension que celle du vase qu'on lui fournit, de même qu'il s'était dilaté jadis à remplir les capacités immenses du génie, contracté maintenant, tenait tout entier dans la médiocrité étroite où M. de Norpois l'avait soudain enfermé et restreint. Notre mise en présence à Bergotte et à moi, ajouta-t-il en se tournant vers mon père, ne laissait pas que d'être assez épineuse, ce qui après tout est aussi une manière d'être piquante. Bergotte, voilà quelques années de cela, fit un voyage à Vienne pendant que j'y étais ambassadeur. Il me fut présenté par la princesse de Metternich, vint s'inscrire et désirait être invité. Or, étant à l'étranger, représentant de la France, à qui, en somme, il fait honneur par ses écrits, dans une certaine mesure, disons pour être exact, dans une mesure bien faible, j'aurais passé sur la triste opinion que j'ai de sa vie privée. Mais il ne voyageait pas seul, et bien plus, il prétendait ne pas être invité sans sa compagne. Je crois ne pas être plus pudibond qu'un autre, et étant célibataire, je pouvais peut-être ouvrir un peu plus largement les portes de l'ambassade que si j'eusse été marié et père de famille. Néanmoins, j'avoue qu'il y a un degré d'ignominie dont je ne saurais m'accommoder, et qui est rendu plus écœurant encore par le ton plus que moral, tranchons le mot moralisateur, que prend Bergotte dans ses livres, où on ne voit qu'analyse perpétuelle et d'ailleurs entre nous un peu languissante, de scrupules douloureux, de remords maladifs, et pour de simples peccadilles, de véritables préchi-préchats, on sait ce qu'en vaut l'aune, alors qu'il montre tant d'inconscience et de cynisme dans sa vie privée. Bref, j'éludais la réponse, la princesse revint à la charge, mais sans plus de succès. De sorte que je ne suppose pas que je doive être très en odeur de sainteté auprès du personnage. Et je ne sais pas jusqu'à quel point il a apprécié l'attention de Svan de l'inviter en même temps que moi. À moins que ce ne soit lui qui l'ait demandé, on ne peut pas savoir, car au fond, c'est un malade. C'est même sa seule excuse. Et est-ce que la fille de Madame Swann était à ce dîner ? Demandai-je à M. de Norpois, profitant pour faire cette question d'un moment où, comme on passait au salon, je pouvais dissimuler plus facilement mon émotion que je n'aurais fait à table, immobile et en pleine lumière. M. de Norpois parut chercher un instant à se souvenir. Oui, une jeune personne de 14 à 15 ans. En effet, je me souviens qu'elle m'a été présentée avant le dîner comme la fille de notre amphitryon. Je vous dirai que je l'ai peu vue. Elle est allée se coucher de bonne heure, ou elle allait chez des amis, je ne me rappelle pas bien. Mais je vois que vous êtes fort au courant de la maison Svan. Je joue avec Mademoiselle Swann aux Champs-Élysées. Elle est délicieuse. Ah, voilà, voilà. Mais à moi, en effet, elle m'a paru charmante. Je vous avoue pourtant que je ne crois pas qu'elle approchera jamais de sa mère, si je peux dire cela sans blesser en vous un sentiment trop vif. Je préfère la figure de Mademoiselle Swann, mais j'admire aussi énormément sa mère. Je vais me promener au bois rien que dans l'espoir de la voir passer. Ah, mais je vais leur dire cela, elles seront très flattées. Pendant qu'il disait ces mots, Monsieur de Norpois était pour quelques secondes encore dans la situation de toutes les personnes qui, m'entendant parler de Swann comme d'un homme intelligent, de ses parents comme d'agents de change honorables, de sa maison comme d'une belle maison, croyaient que je parlerais aussi volontiers d'un autre homme aussi intelligent, d'autres agents de change aussi honorables, d'une autre maison aussi belle. C'est le moment où un homme saint d'esprit qui cause avec un fou ne s'est pas encore aperçu que c'est un fou. Monsieur de Norpois savait qu'il n'y a rien que de naturel dans le plaisir de regarder les jolies femmes, qu'il est de bonne compagnie dès que quelqu'un nous parle avec chaleur de l'une d'elles, de faire semblant de croire qu'il en est amoureux, de l'en plaisanter et de lui promettre de seconder ses desseins. Mais en disant qu'il parlerait de moi à Gilberte et à sa mère, ce qui me permettrait comme une divinité de l'Olympe qui a pris la fluidité d'un souffle, ou plutôt l'aspect du vieillard dont Minerve emprunte les traits, de pénétrer moi-même, invisible, dans le salon de Madame Swann, d'attirer son attention, d'occuper sa pensée, d'exciter sa reconnaissance pour mon admiration, de lui apparaître comme l'ami d'un homme important, de lui sembler à l'avenir digne d'être invité par elle et d'entrer dans l'intimité de sa famille. Cet homme important qui allait user en ma faveur du grand prestige qu'il devait avoir aux yeux de Madame Swann m'inspira subitement une tendresse si grande que j'eus peine à me retenir de ne pas embrasser ses douces mains blanches et fripées qui avaient l'air d'être restées trop longtemps dans l'eau. J'en ébauchai presque le geste que je me crus seul à avoir remarqué. Il est difficile en effet à chacun de nous de calculer exactement à quelle échelle ses paroles ou ses mouvements apparaissent à autrui. Par peur de nous exagérer notre importance et en grandissant dans des proportions énormes le champ sur lequel sont obligés de s'étendre les souvenirs des autres au cours de leur vie, nous nous imaginons que les parties accessoires de notre discours, de nos attitudes, pénètrent à peine dans la conscience, à plus forte raison ne demeurent pas dans la mémoire de ceux avec qui nous causons. C'est d'ailleurs à une supposition de ce genre qu'obéissent les criminels quand ils retouchent après coup un mot qu'ils ont dit et duquel ils pensent qu'on ne pourra confronter cette variante à aucune autre version. Mais il est bien possible que, même en ce qui concerne la vie millénaire de l'humanité, la philosophie du feuilletoniste selon laquelle tout est promis à l'oubli soit moins vrai qu'une philosophie contraire qui prédirait la conservation de toute chose. Dans le même journal où le moraliste du premier Paris nous dit d'un événement d'un chef-d'œuvre, à plus forte raison d'une chanteuse qui eut son heure de célébrité, qui se souviendra de tout cela dans 10 ans ? À la 3e page, le compte-rendu de l'Académie des inscriptions ne parle-t-il pas souvent d'un fait par lui-même moins important, d'un poème de peu de valeur qui date de l'époque des pharaons et qu'on connaît encore intégralement ? Peut-être n'en est-il pas tout à fait de même dans la courte vie humaine. Pourtant, quelques années plus tard, dans une maison où M. de Norpois, qui se trouvait en visite, me semblait le plus solide appui que j'y puisse rencontrer parce qu'il était l'ami de mon père, indulgent, porté à nous vouloir du bien à tous, d'ailleurs habitué par sa profession et ses origines à la discrétion, quand une fois l'ambassadeur parti, on me raconta qu'il avait fait allusion à une soirée d'autrefois dans laquelle il avait vu le moment où j'allais lui baiser les mains. Je ne rougis pas seulement jusqu'aux oreilles, je fus stupéfait d'apprendre qu'était si différente de ce que j'aurais cru, non seulement la façon dont M. de Norpois parlait de moi, mais encore la composition de ses souvenirs. Ce potin m'éclaira sur les proportions inattendues de distraction et de présence d'esprit, de mémoire et d'oubli dont est fait l'esprit humain. Et je fus aussi merveilleusement surpris que le jour où je lus pour la première fois dans un livre de Maspero qu'on savait exactement la liste des chasseurs qu'Assurbanipal invitait à ses battues 10 siècles avant Jésus-Christ. « Oh, monsieur, dis-je à monsieur de Norpois quand il m'annonça qu'il ferait part à Gilberte et à sa mère de l'admiration que j'avais pour elle. Si vous faisiez cela, si vous parliez de moi à Madame Swann, ce ne serait pas assez de toute ma vie pour vous témoigner ma gratitude. Et cette vie vous appartiendrait. Mais je tiens à vous faire remarquer que je ne connais pas Madame Swann et que je ne lui ai jamais été présenté. J'avais ajouté ces derniers mots par scrupule et pour ne pas avoir l'air de m'être vanté d'une relation que je n'avais pas. Mais en les prononçant, je sentais qu'ils étaient déjà devenus inutiles, car dès le début de mon remerciement, d'une ardeur réfrigérante, j'avais vu passer sur le visage de l'ambassadeur une expression d'hésitation et de mécontentement, et dans ses yeux ce regard vertical, étroit et oblique, comme dans le dessin en perspective d'un solide la ligne fuyante d'une de ses faces, regard qui s'adresse à cet interlocuteur invisible qu'on a en soi-même, au moment où on lui dit quelque chose que l'autre interlocuteur, le monsieur avec qui on parlait jusqu'ici, moi en la circonstance, ne doit pas entendre. Je me rendis compte aussitôt que ces phrases que j'avais prononcées, et qui, faibles encore auprès de l'effusion reconnaissante dont j'étais envahi, m'avaient paru devoir toucher M. de Norpois et achever de le décider à une intervention qui lui eût donné si peu de peine, et à moi tant de joie, était peut-être, entre toutes celles qu'eussent pu chercher diaboliquement des personnes qui m'eussent voulu du mal, les seules qui pussent avoir pour résultat de l'y faire renoncer. En les entendant en effet, de même qu'au moment où un inconnu avec qui nous venions d'échanger agréablement des impressions que nous avions pu croire semblables sur des passants que nous nous accordions à trouver vulgaires, nous montre tout à coup l'abîme pathologique qui le sépare de nous, en ajoutant négligemment, tout en tâtant sa poche, « C'est malheureux que je n'ai pas mon revolver. Il n'en serait pas resté un seul. » Monsieur de Norpois, qui savait que rien n'était moins précieux ni plus aisé que d'être recommandé à Madame Swann et introduit chez elle, et qui vit que, pour moi au contraire, cela présentait un tel prix, par conséquent sans doute une grande difficulté, pensa que le désir, normal en apparence que j'avais exprimé, devait dissimuler quelques pensées différentes, quelques visées suspectes, quelques fautes antérieures, à cause de quoi, dans la certitude de déplaire à Madame Swann, personne n'avait jusqu'ici voulu se charger de lui transmettre une commission de ma part. Et je compris que cette commission, il ne la ferait jamais. Qu'il pourrait voir Madame Swann quotidiennement pendant des années, sans pour cela lui parler une seule fois de moi. Il lui demanda cependant quelques jours plus tard un renseignement que je désirais et chargea mon père de me le transmettre. Mais il n'avait pas cru devoir dire pour qui il le demandait. Elle n'apprendrait donc pas que je connaissais M. de Norpois et que je souhaitais tant d'aller chez elle. Et ce fut peut-être un malheur moins grand que je ne croyais, car la seconde de ces nouvelles n'eût probablement pas beaucoup ajouté à l'efficacité, d'ailleurs incertaine, de la première. Pour Odette, l'idée de sa propre vie et de sa demeure, n'éveillant aucun trouble mystérieux, une personne qui la connaissait, qui allait chez elle, ne lui semblait pas un être fabuleux comme il le paraissait à moi qui aurait jeté dans les fenêtres des Swann une pierre, si j'avais pu écrire sur elle, que je connaissais M. de Norpois. J'étais persuadé qu'un tel message, même transmis d'une façon aussi brutale, m'eût donné beaucoup plus de prestige aux yeux de la maîtresse de la maison qu'il ne l'eût indisposé contre moi. Mais même si j'avais pu me rendre compte que la mission dont ne s'acquitta pas M. de Norpois fut restée sans utilité, bien plus qu'elle eût pu me nuire auprès des Swann, je n'aurais pas eu le courage, si c'était montré consentant, d'en décharger l'ambassadeur et de renoncer à la volupté, si funeste qu'en pussent être les suites, que mon nom et ma personne se trouvassent ainsi un moment auprès de Gilberte, dans sa maison et sa vie inconnue. Quand M. de Norpois fut parti, mon père jeta un coup d'œil sur le journal du soir. Je songeais de nouveau à la Berma. Le plaisir que j'avais eu à l'entendre exigeait d'autant plus d'être complété qu'il était loin d'égaler celui que je m'étais promis. Aussi s'assimilait-il immédiatement tout ce qui était susceptible de le nourrir, par exemple ses mérites que M. de Norpois avait reconnus à la Berma, et que mon esprit avait bu d'un seul trait comme un pré trop sec sur qui on verse de l'eau. Or mon père me passa le journal en me désignant un androfilé conçu en ces termes. La représentation de Phèdre qui a été donnée devant une salle enthousiaste où ont remarqué les principales notabilités du monde des arts et de la critique a été pour Madame Berma qui jouait le rôle de Phèdre l'occasion d'un triomphe comme elle en a rarement connu de plus éclatant au cours de sa prestigieuse carrière. Nous reviendrons plus longuement sur cette représentation qui constitue un véritable événement théâtral. Disons seulement que les juges les plus autorisés s'accordaient à déclarer qu'une telle interprétation renouvelait entièrement le rôle de Phèdre, qui est un des plus beaux et des plus fouillés de Racine, et constituait la plus pure et la plus haute manifestation d'art à laquelle de notre temps il ait été donné d'assister. Et que mon esprit eût conçu cette idée nouvelle de la plus pure et haute manifestation d'art, celle-ci se rapprocha du plaisir imparfait que j'avais éprouvé au théâtre, lui ajouta un peu de ce qui lui manquait, et leur réunion forma quelque chose de si exaltant que je m'écriai « Quel grand artiste !» Sans doute on peut trouver que je n'étais pas absolument sincère. Mais qu'on songe plutôt à tant d'écrivains qui, mécontents du morceau qu'ils viennent d'écrire, s'ils lisent un éloge du génie de Chateaubriand ou évoquant tel grand artiste dont ils ont souhaité d'être l'égal, fredonnant par exemple en eux-mêmes telle phrase de Beethoven, de laquelle ils comparent la tristesse à celle qu'ils ont voulu mettre dans leur prose, se remplissent tellement de cette idée de génie qu'ils l'ajoutent à leur propre production en repensant à elle. Ne les voient plus telles qu'elles leur étaient apparues d'abord, et risquant un acte de foi dans la valeur de leur œuvre, se disent, après tout, sans se rendre compte que dans le total qui détermine leur satisfaction finale, ils font entrer le souvenir de merveilleuses pages de Chateaubriand, qu'ils assimilent aux leurs, mais enfin qu'ils n'ont point écrites. Qu'on se rappelle tant d'hommes qui croient en l'amour d'une maîtresse de qui ils ne connaissent que les trahisons. De tous ceux aussi qui espèrent alternativement soit une survie incompréhensible, dès qu'ils pensent mari inconsolable à une femme qu'ils ont perdue et qu'ils aiment encore, artiste à la gloire future de laquelle ils pourront jouir, soit un néant rassurant quand leur intelligence se reporte au contraire, aux fautes que sans lui ils auraient à expier après leur mort. Qu'on pense encore aux touristes, qu'exalte la beauté d'ensemble d'un voyage dont, jour par jour, ils n'ont éprouvé que de l'ennui. Et qu'on dise si dans la vie en commun que mènent les idées au sein de notre esprit, il en est une seule de celles qui nous rendent le plus heureux, qui n'ait été d'abord en véritable parasite, demander à une idée étrangère et voisine le meilleur de la force qui lui manquait. Ma mère ne parut pas très satisfaite que mon père ne songeât plus pour moi à la carrière. Je crois que, soucieuse avant tout qu'une règle d'existence disciplinât les caprices de mes nerfs, ce qu'elle regrettait, c'était moins de me voir renoncer à la diplomatie que m'adonner à la littérature. « Mais laisse donc, s'écria mon père, il faut avant tout prendre du plaisir à ce qu'on fait. Or, il n'est plus un enfant, il sait bien maintenant ce qu'il aime. » Il est peu probable qu'il change, et il est capable de se rendre compte de ce qui le rendra heureux dans l'existence. En attendant que, grâce à la liberté qu'elle m'octroyait, je fusse ou non heureux dans l'existence, les paroles de mon père me firent ce soir-là bien de la peine. De tout temps, ces gentillesses imprévues m'avaient, quand elles se produisaient, donné une telle envie d'embrasser au-dessus de sa barbe ses joues colorées, que si je n'y cédais pas, c'était seulement par peur de lui déplaire. Aujourd'hui, comme un auteur s'effraie de voir ses propres rêveries qui lui paraissent sans grande valeur parce qu'il ne les sépare pas de lui-même, obliger un éditeur à choisir un papier, à employer des caractères peut-être trop beaux pour elle, je me demandais si mon désir d'écrire était quelque chose d'assez important pour que mon père dépensât à cause de cela tant de bonté. Mais surtout, en parlant de mes goûts qui ne changeraient plus, de ce qui était destiné à rendre mon existence heureuse, il insinuait en moi deux terribles soupçons. Le premier, c'était que, alors que chaque jour je me considérais comme sur le seuil de ma vie encore intacte et qui ne débuterait que le lendemain matin, mon existence était déjà commencée. Bien plus que ce qui allait en suivre ne serait pas très différent de ce qui avait précédé. Le second soupçon, qui n'était à vrai dire qu'une autre forme du premier, c'est que je n'étais pas situé en dehors du temps, mais soumis à ses lois, tout comme ces personnages de romans qui, à cause de cela, me jetaient dans une telle tristesse, quand je lisais leur vie encombrée au fond de ma guérite d'osier. Théoriquement, on sait que la Terre tourne. Mais en fait, on ne s'en aperçoit pas, le sol sur lequel on marche semble ne pas bouger et on vit tranquille. Il en est ainsi du temps dans la vie. Et pour rendre sa fuite sensible, les romanciers sont obligés, en accélérant follement les battements de l'aiguille, de faire franchir au lecteur 10, 20, 30 ans en 2 minutes. Au haut d'une page, on a quitté un amant plein d'espoir. Au bas de la suivante, on le retrouve octogénaire, accomplissant péniblement dans le préau d'un hospice sa promenade quotidienne, répondant à peine aux paroles qu'on lui adresse, ayant oublié le passé. En disant de moi « ce n'est plus un enfant, ses goûts ne changeront plus », etc., mon père venait tout d'un coup de me faire apparaître à moi-même dans le temps, et me causer le même genre de tristesse que si j'avais été non pas encore l'hospitalisé ramolli, mais ces héros dont l'auteur, sur un ton indifférent qui est particulièrement cruel, nous dit à la fin d'un livre « Il quitte de moins en moins la campagne, il a fini par s'y fixer définitivement, etc. » Cependant, mon père, pour aller au-devant des critiques que nous aurions pu faire sur notre invité, dit à maman « J'avoue que le père Norquois a été un peu poncif, comme vous dites. Quand il a dit qu'il aurait été peu séant de poser une question au comte de Paris, j'ai eu peur que vous ne vous mettiez à rire. Mais pas du tout, répondit ma mère. J'aime beaucoup qu'un homme de cette valeur et de cet âge ait gardé cette sorte de naïveté qui ne prouve qu'un fond d'honnêteté et de bonne éducation. Je crois bien, cela ne l'empêche pas d'être fin et intelligent, je le sais, moi qui le vois à la commission tout autre qu'il n'est ici, s'écria mon père, heureux de voir que maman appréciait monsieur de Norpois, et voulant lui persuader qu'il était encore supérieur à ce qu'elle croyait, parce que la cordialité surfait avec autant de plaisir qu'en prend la taquinerie à déprécier. Comment a-t-il dit, avec les princes, on ne sait jamais. « Mais oui, comme tu dis là, j'avais remarqué, c'est très fin. On voit qu'il a une profonde expérience de la vie. » C'est extraordinaire qu'il ait dîné chez les Swann et qu'il y ait trouvé en somme des gens réguliers, des fonctionnaires. Où est-ce que Madame Swann a pu aller pêcher ce monde-là? As-tu remarqué avec quelle malice il a fait cette réflexion? C'est une maison où il va surtout des hommes. » Et tous deux cherchaient à reproduire la manière dont M. de Norpois avait dit cette phrase, comme ils auraient fait pour quelque intonation de Bressan ou de Tiron, dans l'aventurière ou dans le gendre de M. Poirier. Mais de tous ces mots, le plus goûté le fut par Françoise, qui encore plusieurs années après ne pouvait pas tenir son sérieux si on lui rappelait qu'elle avait été traitée par l'ambassadeur de chef de premier ordre. ce que ma mère était allée lui transmettre comme un ministre de la guerre les félicitations d'un souverain de passage après la revue. Je l'avais d'ailleurs précédé à la cuisine, car j'avais fait promettre à Françoise, pacifiste mais cruelle, qu'elle ne ferait pas trop souffrir le lapin qu'elle avait à tuer, et je n'avais pas eu de nouvelles de cette mort. Françoise m'assura qu'elle s'était passée le mieux du monde, et très rapidement. « J'ai jamais vu une bête comme ça, elle est morte sans dire seulement une parole. Vous auriez dit qu'elle était muette. » Peu au courant du langage des bêtes, j'alléguai que le lapin ne criait peut-être pas comme le poulet. « Attendez un peu voir, » me dit Françoise, indignée de mon ignorance, « si les lapins ne crient pas autant comme les poulets. Ils ont même la voix bien plus forte. » Françoise accepta les compliments de Monsieur de Norpois avec la fière simplicité, le regard joyeux, et fut momentanément intelligent d'un artiste à qui on parle de son art. Ma mère l'avait envoyé autrefois dans certains grands restaurants voir comment on y faisait la cuisine. J'eus ce soir-là à l'entendre traiter les plus célèbres de gargotes, le même plaisir qu'autrefois à apprendre, pour les artistes dramatiques, que la hiérarchie de leurs mérites n'était pas la même que celle de leur réputation. L'ambassadeur, lui dit ma mère, assure que nulle part on ne mange de bœuf froid et de soufflé comme les vôtres. Françoise, avec un air de modestie et de rendre hommage à la vérité, l'accorda, sans être d'ailleurs impressionnée par le titre d'ambassadeur. Elle disait de M. de Norpois, avec l'amabilité due à quelqu'un qui l'avait prise pour un chef, « C'est un bon vieux comme moi. » Elle avait bien cherché à l'apercevoir quand il était arrivé, mais sachant que maman détestait qu'on fût derrière les portes ou aux fenêtres, et pensant qu'elle saurait par les autres domestiques ou par les concierges qu'elle avait fait le guet, car Françoise ne voyait partout que jalousie et racontage qui jouaient dans son imagination le même rôle permanent et funeste que pour telles autres personnes les intrigues des jésuites ou des juifs. Elle s'était contentée de regarder par la croisée de la cuisine, pour ne pas avoir des raisons avec madame, et sous l'aspect sommaire de monsieur de Norpois, elle avait pu voir monsieur le Grandin. À cause de son agilité, et bien qu'il n'y eût pas un trait commun entre eux. Mais enfin, lui demanda ma mère, comment expliquez-vous que personne ne fasse la gelée aussi bien que vous, quand vous le voulez? Je ne sais pas d'où que ça devient, répondit Françoise, qui n'établissait pas une démarcation bien nette entre le verbe « venir », au moins pris dans certaines acceptions, et le verbe « devenir ». Elle disait vrai du reste en partie, et n'était pas beaucoup plus capable ou désireuse de dévoiler le mystère qui faisait la supériorité de ses gelées ou de ses crèmes qu'une grande élégante pour ses toilettes ou une grande cantatrice pour son chant. Leurs explications ne nous disent pas grand-chose. Il en était de même des recettes de notre cuisinière. « Ils font cuire trop à la va-vite, » répondit-elle en parlant des grands restaurateurs, « et puis pas tout ensemble. Il faut que le bœuf, il devienne comme une éponge, alors il boit tout le jus jusqu'au fond. » Pourtant, il y avait un de ces cafés où il me semble qu'on savait bien un peu faire la cuisine. Je ne dis pas que c'était tout à fait ma gelée, mais c'était fait bien doucement, et les soufflets, ils avaient bien de la crème. « Est-ce Henri ?» demanda mon père, qui nous avait rejoint, et appréciait beaucoup le restaurant de la place Gaillon, où il avait à date fixe des repas de corps. « Oh non !» dit Françoise avec une douceur qui cachait un profond dédain. « Je parlais d'un petit restaurant. » Chez cet Henri, c'est très bon, bien sûr, mais c'est pas un restaurant. C'est plutôt un bouillon. Weber? Ah non, monsieur, je voulais dire un bon restaurant. Weber, c'est dans la rue Royale. Ce n'est pas un restaurant, c'est une brasserie. Je ne sais pas si ce qu'ils vous donnent est servi. Je crois qu'ils n'ont même pas de nappe. Ils posent cela sur la table, va comme je te pousse. Sirop? Françoise sourit. « Oh, là, je crois qu'en fête de cuisine, il y a surtout des dames du monde. Monde signifiait pour Françoise demi-monde. Dame, il faut ça pour la jeunesse. Nous nous apercevions qu'avec son air de simplicité, Françoise était pour les cuisiniers célèbres une plus terrible camarade que ne peut l'être l'actrice la plus envieuse et la plus infatuée. Nous sentîmes pourtant qu'elle avait un sentiment juste de son art et le respect des traditions, car elle ajouta « Non, je veux dire un restaurant où c'est qu'il y avait l'air d'avoir une bien bonne petite cuisine bourgeoise. C'est une maison encore assez conséquente. Ça travaillait beaucoup. Ah, on en ramassait des sous là-dedans. Françoise économe comptait par sous, non par louis comme les décavés. Madame connaît bien, là-bas, à droite, sur les grands boulevards, un peu en arrière. » Le restaurant dont elle parlait avec cette équité mêlée d'orgueil et de bonhomie, c'était le Café Anglais. Quand vint le 1er janvier, je fis d'abord des visites de famille avec maman, qui, pour ne pas me fatiguer, les avait d'avance à l'aide d'un itinéraire tracé par mon père, classé par quartier plutôt que selon le degré exact de la parenté. Mais à peine entré dans le salon d'une cousine, assez éloignée, qui avait comme raison de passer d'abord que sa demeure ne le fût pas de la nôtre, ma mère était épouvantée en voyant ses marrons glacés ou déguisés à la main, le meilleur ami du plus susceptible de mes oncles, auquel il allait rapporter que nous n'avions pas commencé notre tournée par lui. Cet oncle serait sûrement blessé, il n'eût trouvé que naturel que nous allassions de la Madeleine au Jardin des Plantes où il habitait, avant de nous arrêter à Saint-Augustin, pour repartir rue de l'École de médecine. Les visites finies, ma grand-mère dispensait que nous en fissions une chez elle comme nous y dînions ce jour-là, je courus jusqu'aux Champs-Élysées porter à notre marchande, pour qu'elle le remît à la personne qui venait plusieurs fois par semaine de chez les Swann, y chercher du pain d'épices, la lettre que, dès le jour où mon ami m'avait fait tant de peine, j'avais décidé de lui envoyer au Nouvel An, et dans laquelle je lui disais que notre amitié ancienne disparaissait avec l'année finie, que j'oubliais mes griefs et mes déceptions, et qu'à partir du 1er janvier, c'était une amitié neuve que nous allions bâtir, si solide que rien ne la détruirait, si merveilleuse que j'espérais que Gilberte mettrait quelque coquetterie à lui garder toute sa beauté et à m'avertir à temps, comme je promettais de le faire moi-même aussitôt que surviendrait le moindre péril qui pourrait l'endommager. En rentrant, Françoise me fit arrêter au coin de la rue Royale devant un étalage en plein vent où elle choisit pour ses propres étrennes des photographies de Pie-IX et de Raspail, et où, pour ma part, j'en achetai une de la Berma. Les innombrables admirations qu'excitait l'artiste donnaient quelque chose d'un peu pauvre à ce visage unique qu'elle avait pour y répondre. Immuable et précaire comme ce vêtement des personnes qui n'en ont pas de rechange, et où elle ne pouvait exhiber toujours que le petit pli au-dessus de la lèvre supérieure, le relèvement des sourcils, quelques autres particularités physiques toujours les mêmes, qui en somme étaient à la merci d'une brûlure ou d'un choc. Ce visage d'ailleurs ne m'eût pas à lui seul semblé beau. Mais il me donnait l'idée et par conséquent l'envie de l'embrasser à cause de tous les baisers qu'il avait dû supporter et que du fond de la carte-album il semblait appelé encore par ce regard coquettement tendre et ce sourire artificieusement ingénu. Car la Berma devait ressentir effectivement pour bien des jeunes hommes ses désirs qu'elle avouait sous le couvert du personnage de Phèdre, et dont tout, même le prestige de son nom qui ajoutait à sa beauté et prorogeait sa jeunesse, devait lui rendre l'assouvissement si facile. Le soir tombé, je m'arrêtai devant une colonne théâtre où était affichée la représentation que la Berma donnait pour le 1er janvier. Il soufflait un vent humide et doux, c'était un temps que je connaissais, J'eus la sensation et le pressentiment que le jour de l'an n'était pas un jour différent des autres, qu'il n'était pas le premier d'un monde nouveau où j'aurais pu, avec une chance encore intacte, refaire la connaissance de Gilbert comme au temps de la création, comme s'il n'existait pas encore de passé, comme si eussent été anéantis, avec les indices qu'on aurait pu en tirer pour l'avenir, les déceptions qu'elle m'avait parfois causées, un nouveau monde où rien ne subsista de l'ancien, rien qu'une chose, mon désir que Gilbert m'aimât. Je compris que si mon cœur souhaitait ce renouvellement autour de lui d'un univers qui ne l'avait pas satisfait, c'est que lui, mon cœur, n'avait pas changé. Et je me dis qu'il n'y avait pas de raison pour que celui de Gilbert eût changé davantage. Je sentis que cette nouvelle amitié, c'était la même, comme ne sont pas séparées des autres par un fossé les années nouvelles que notre désir, sans pouvoir les atteindre et les modifier, recouvre à leur insu d'un nom différent. J'avais beau dédier celle-ci à Gilbert, et comme on superpose une religion aux lois aveugles de la nature, essayer d'imprimer au jour de l'an l'idée particulière que je m'étais faite de lui, c'était en vain. Je sentais qu'il ne savait pas qu'on l'appelât le jour de l'an, qu'il finissait dans le crépuscule d'une façon qui ne m'était pas nouvelle, dans le vent doux qui soufflait autour de la colonne d'affiches. J'avais reconnu, j'avais senti reparaître la matière éternelle et commune, l'humidité familière, l'ignorante fluidité des anciens jours. Je revins à la maison. Je venais de vivre le 1er janvier des hommes vieux, qui diffèrent ce jour-là des jeunes, non parce qu'on ne leur donne plus d'étrennes, mais parce qu'ils ne croient plus au nouvel an. Des étrennes j'en avais reçues, mais non pas les seules qui m'eussent fait plaisir et qui eussent été un mot de Gilbert. J'étais pourtant jeune encore tout de même, puisque j'avais pu lui en écrire un par lequel j'espérais, en lui disant les rêves lointains de ma tendresse, en éveiller de pareils en elle. La tristesse des hommes qui ont vieilli, c'est de ne pas même songer à écrire de telles lettres, dont ils ont appris l'inefficacité. Quand je fus couché, les bruits de la rue, qui se prolongeaient plus tard ce soir de fête, me tinrent éveillé. Je pensais à tous les gens qui finiraient leur nuit dans les plaisirs, à l'amant, à la troupe de débauchés peut-être, qui avait dû aller chercher la Berma à la fin de cette représentation que j'avais vue annoncer pour le soir. Je ne pouvais même pas, pour calmer l'agitation que cette idée faisait naître en moi dans cette nuit d'insomnie, me dire que la Berma ne pensait peut-être pas à l'amour, puisque les vers qu'elle récitait, qu'elle avait longuement étudiés, lui rappelaient à tout moment qu'il est délicieux, comme elle savait d'ailleurs si bien qu'elle en faisait apparaître les troubles bien connus, mais doués d'une violence nouvelle et d'une douceur insoupçonnée, à des spectateurs émerveillés, dont chacun pourtant les avait ressentis par soi-même. Je rallumai ma bougie éteinte pour regarder encore une fois son visage, à la pensée qu'il était sans doute en ce moment caressé par ces hommes que je ne pouvais empêcher de donner à la Berma et de recevoir d'elle des joies surhumaines et vagues. J'éprouvai un émoi plus cruel qu'il n'était voluptueux, une nostalgie que vint aggraver le son du cor, comme on l'entend la nuit de la mi-carême et souvent des autres fêtes, et qui, parce qu'il est alors sans poésie, est plus triste, sortant d'un mastroquet, que le soir au fond des bois. À ce moment-là, un mot de Gilbert n'eût peut-être pas été ce qu'il m'eût fallu. Nos désirs vont s'interférant, et dans la confusion de l'existence, il est rare qu'un bonheur vienne justement se poser sur le désir qu'il avait réclamé. Je continuai à aller aux Champs-Élysées les jours de beau temps par des rues dont les maisons élégantes et roses baignaient, parce que c'était le moment de la grande vogue des expositions d'aquarellistes, dans un ciel mobile et léger. Je mentirai en disant que dans ce temps-là, les palais de Gabriel m'aient paru d'une plus grande beauté ni même d'une autre époque que les hôtels avoisinants. Je trouvais plus de style et aurais cru plus d'ancienneté, sinon au palais de l'industrie, du moins à celui du Trocadéro. Plongé dans un sommeil agité, mon adolescence enveloppée d'un même rêve tout le quartier où elle le promenait, et je n'avais jamais songé qu'il pût y avoir un édifice du XVIIIe siècle dans la rue Royale, de même que j'aurais été étonné si j'avais appris que la porte Saint-Martin et la porte Saint-Denis, chefs-d'œuvre du temps de Louis XIV, n'étaient pas contemporains des immeubles les plus récents de ces arrondissements sordides. Une seule fois, un des palais de Gabriel me fit arrêter longuement. C'est que la nuit étant venue, ses colonnes dématérialisées par le clair de lune avaient l'air découpées dans du carton, et me rappelant un décor de l'opérette Orphée aux Enfers, me donnait pour la première fois une impression de beauté.